Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler du mouvement des micro-maisons. On revient juste après le générique. Pour m'accompagner ce matin, deux invités, Aurélie et Paul, deux diplômés de l'UTC. On va parler des tiny maisons. Déjà, qu'est-ce que c'est les tiny maisons ? Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui c'est qui se lance dans cette explication de tiny maison ou micro maison ?
Bah, je vais essayer. Je vais donner une définition qui est la mienne. Hein. Après, je ne sais pas si tout le monde la partage. Bah, une tiny maison, une tiny house ou une micro maison, c'est une petite maison construite en ossature bois sur une remorque qui fait en général 6 à 7 mètres de long, et dans laquelle on retrouve tout ce qu'il y a dans une maison normale, normalement, donc un petit salon, une petite chambre, une petite salle à manger, enfin tout rikiki, mais voilà, tout l'essentiel pour vivre, normalement.
Vous êtes tous les deux diplômés de l'UTC, Aurélie, toi t'es diplômé ingénieur, et toi Quentin, t'es plutôt docteur en fait de l'UTC ?
Oui, il paraît. Docteur en biologie, avec une spécialisation en toxicologie, donc réalisée au laboratoire BMBI.
Et toi,
moi, j'ai fait génie des systèmes urbains et une spécialité management de projets innovants, la filière MPI.
C'est pas du tout des environnements écologiques, là. Le but de la tiny maison, c'est plutôt, il y a plutôt une fibre écologie là-dedans.
Bah oui et non, parce que je trouve qu'en GSU, si vous allez faire un tour là où on a nos cours, on trouve quand même pas mal de personnes sensibles à ces questions-là, dans tout ce qui est aménagement du territoire. C'est quand même des choses qui...
L'aménagement du territoire, pour les auditeurs, c'est un peu comme architecte, mais architecte de l'espace, quoi.
Voilà.
En gros, pour faire simple. Et pour toi, tu avais bossé en toxicologie à Compiègne ?
Moi, j'ai travaillé en toxicologie de produits chimiques qu'on retrouve dans des produits ménagers tous les jours ou dans les produits cosmétiques qui sont en interaction avec l'homme. Donc, ce n'est pas forcément un lien avec l'écologie. Mais y a des passerelles, hein, puisque la toxicologie s'intéresse aussi à tous les produits qu'on retrouve dans l'environnement. On appelle ça l'écotoxicologie. Ce sera peut-être le futur pour moi, j'en sais rien.
Vous êtes tous les deux assez jeunes, hein, 29 et 26 ans, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce projet de tiny maison ? Comment vous êtes dit, allez, demain, on va construire une micro-maison ?
En fait, après l'UTC, moi personnellement, je me suis un petit peu posé la question de qu'est-ce que je voulais faire de mes compétences, à qui je voulais les faire profiter. Et du coup, ça pousse un peu à la réflexion. Je pense qu'on est aussi une génération, on est beaucoup en quête de sens qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, comment on va utiliser notre temps. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en fait participer à la création d'un écolieu. Alors, on ne sait pas encore s'il existera vraiment un jour, ni vraiment quelle forme il aura, parce qu'on veut que ce soit un projet collectif. Mais donc on a réfléchi à ça avec Paul. Et à un moment, on s'est dit, au lieu de rêver, est-ce qu'on ne commencerait pas par faire un petit truc ? Parce que c'est bien d'avoir plein d'idées, tout le monde a plein d'idées, plein de projets, mais il faut qu'on montre quelque chose de concret aux gens pour qu'ils se disent, eux, ils sont sérieux et ils vont vraiment aller dans ce projet-là, quoi. Donc après, on a travaillé avec des étudiants de l'UTC sur différents groupes. L'idée est née comme ça. On ne s'était pas dit, on va faire une micro-maison tout de suite. C'est né avec le développement du projet, en fait.
C'était quoi les premières pistes dans le fait de le faire ? C'était quoi les premières pistes, vous
dites ? Au début, on s'était dit, on achète un terrain ou on trouve un terrain. Enfin, on ne savait pas trop sous quelle forme. On réhabilite une grange, etc. On accueille des groupes. Pour faire de la sensibilisation à différents sujets, faire des formations, on accueille des assos, etc. Mais on est tout de suite confronté à la difficulté de tout plaquer et un peu d'un pari fou. Et donc là, la petite maison, en fait, ce qui est cool, c'est que comme c'est sur roue, on peut aujourd'hui... Enfin, moi, je travaille. On fait ça ici tant qu'on a des revenus. Et le jour où on veut se lancer, on a au moins la sécurité de l'habitat.
Ouais, vous pouvez bouger avec cet habitat. En plus, elle a été hébergée par l'Ermitage, qui justement, eux, ont passé le pas. Ils ont fait un appel à crowdfunding pour acheter ce lieu, cette ancienne laiterie sur plusieurs hectares, et donc créer un lieu éco-citoyen, hacking citoyen, on va dire. C'est eux qui vous ont... comment ça s'est fait, l'invitation, pour arriver sur le terrain de l'Ermitage pour monter ce projet de
Il y avait un lien de connaissance, puisque Aurélie connaissait Mathieu de par ses études, donc un des cofondateurs du projet Hermitage. Et quand on entendait leurs envies, ce qu'ils voulaient faire sur ce site, quand on discutait avec eux, quand on a rencontré Mathieu, il y avait une espèce d'élan qui allait dans le même sens. Et pragmatiquement, nous, il y a un moment où on a recherché un lieu pour pouvoir se poser, pour pouvoir construire. Eux, ils avaient des ateliers pour pouvoir stocker du matériel et un peu de ressources, même un champ. Finalement, ça s'est transformé en un champ pour pouvoir poser notre maison. Donc, c'était un échange de bons procédés. Nous aussi, on a un petit peu participé à la campagne de financement, pour les... Pour les aider, parce qu'on était super motivés aussi, que c'est des projets qui nous parlent.
C'est vrai que pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est donc un lieu participatif. Dedans, il y a du hacking citoyen, on peut faire des formations. Il y a aussi tout un côté écologie, dans le sens où on peut aller fabriquer, cultiver ses légumes, etc. C'était quoi le projet qui vous a le plus intéressé dans cette histoire de l'Hermitage?
Je dirais c'est un peu le côté écosystème. Moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, quand on parle d'écolieux, c'est aussi ce côté de... On ne traite pas juste un sujet, mais on pose les questions. Enfin, comment vivre autrement, en respectant plus l'environnement. Après, en soi, là, le projet, il se lance. Ils sont propriétaires depuis peu. Donc, c'est vrai que sur place, on n'a pas... On n'a pas eu beaucoup d'expérience de toutes ces choses-là. C'était parce que nous, on était vraiment un petit peu les pionniers. Enfin, c'est parce qu'on se connaissait, parce que il y avait ce gagnant-gagnant qui pouvait marcher, que ça s'est fait. C'était pas forcément facile pour eux non plus de nous accueillir dans une période d'incertitude, de recherche de fonds, etc. Donc, c'est vrai que en termes de projet, on a croisé quelques petits projets sur place. Mais c'était pas encore le... Là, je pense que ça va commencer à se lancer un peu plus.
Oui, bien sûr, il fallait se structurer au départ, ouais. Ensuite structurer le projet. Et puis, surtout que là, c'est quand même un projet assez important. J'ai vu dans les régions, je crois que c'est dans la région centre, ils vendent carrément des villages complets. En fait, l'intérêt serait de pouvoir tester sur des villages complets avec des habitants qui viendraient acheter leur maison et puis la construire en écologie. C'est ça un petit peu le... Vous aimeriez bien... C'est quoi l'écolieu pour vous? Ça serait quoi l'écolieu?
On n'a pas encore l'idée de exactement quelle forme ça aura.
Comment vous l'imaginez?
Au tout début, il y avait quand même l'idée d'avoir un terrain, avoir des terres pour peut-être tendre vers l'autonomie alimentaire. Donc permaculture,
c'est un jardin, récupérer l'eau.
Agriculture écologique. Et puis après, un lieu physique avec des bâtis pour pouvoir créer un lieu de partage, recevoir des gens et aussi un lieu d'habitat par la suite.
Participatif.
Et comme on voulait commencer à créer une petite communauté, il faut aussi de l'espace, donc pour des bénévoles. C'est là que la Tanios arrive, parce que du coup, c'est la première pierre de tout ça. Après, est-ce que ça prendra dans un village qui sera mis à disposition par une mairie, pourquoi pas? Parce que c'est peut-être compliqué des fois.
Dans Région Centre, ça coûte rien les maisons. Je crois que pour 200 000 euros, je crois qu'il y avait un village complet quasiment.
C'est... Alors nous, on voulait aller dans le sud-ouest, on essaiera, mais je pense que c'est un peu trop touristique pour qu'on ait ce biais-là. Mais après, du coup, on réfléchissait, est-ce qu'on achète une terre agricole, du coup, et petit à petit, on commence juste par d'ailleurs le côté agriculture, et puis on trouvera peut-être un local à côté, on posera notre maison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus focalisé sur la petite maison, donc et les choses se dérouleront petit à petit, quoi.
Ce qui est intéressant, et ça, pour le coup, on a fait avec Paul un accompagnement en permaculture par les Arts Perma. Je ne sais pas si vous connaissez Laurence et Bruno Bell, qui ont monté un collectif en fait d'accompagnement et de réflexion autour de la permaculture. Et donc pendant un an, on a été en groupe et on s'est réunissait tous les mois pour chacun avancer sur son projet. Et ça nous permettait d'approfondir les connaissances liées à la permaculture. Et il y a pas mal de petits principes. Et justement, il y en a un qui est proposer des solutions lentes et à petite échelle. C'est-à-dire que... et un autre qui dit agissez local, pensez global, un petit peu. Donc, c'est avoir une vision un peu de là où on veut aller, mais pas non plus tout avoir déjà préficelé, parce que sinon on n'est plus du tout réactif et souple, et en même temps faire des choses concrètes et à petite échelle. Et voilà, le jour où le projet de l'Hermitage, là, ils sont partis tout de suite sur un énorme truc, c'est super ambitieux, et puis je pense qu'aujourd'hui ils feraient peut-être pas les choses de la même manière. Nous on s'est dit, on part d'une petite maison, c'est notre environnement à tous les deux. Maintenant, dans le futur, on voudra certainement, on espère pouvoir être plus. Mais ça viendra quand ça viendra, avec les gens qui se présenteront, quoi.
Vous avez rencontré d'autres constructeurs de micro-maisons?
Oui, on a rencontré un professionnel, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais qui nous a un petit peu aidé sur la conception. Et par la suite, bah, y a d'autres gens qui nous ont contactés pour savoir, qui voulaient se lancer dans l'autoconstruction, si cette personne-là, voilà, on pouvait, enfin, pour des conseils et tout ça.
On a rencontré, en fait, on a aussi organisé des chantiers participatifs pendant le mois d'août de l'année dernière. Et la cible, enfin, les gens qu'on ciblait, c'était du coup d'autres personnes qui voudraient un jour en faire. Parce que nous, quand on a voulu en faire des chantiers participatifs, on n'en a pas trouvé, en fait, c'était dommage. Paul voulait vraiment participer pour voir un peu à quoi s'attendre avant de se lancer. Donc on s'est dit qu'on voulait offrir ça à d'autres. Donc on a rencontré des gens qui y réfléchissaient juste comme ça, et puis des gens qui étaient « c'est mon projet, mais pas tout de suite, je peux pas ». Voilà.
Ouais, ça arrive souvent sur les éco-maisons, par exemple les maisons qui sont faites en paille, où c'est justement d'autres personnes qui ont des maisons en construction qui viennent aider certains.
C'est pour ça, c'est les chantiers participatifs, le principe. Alors il y a un site, c'est Twiza, c'est ça Paul, si je ne me trompe pas.
Ouais, Twiza qui met en relation du coup, des gens relation, qui veulent partager des chantiers, tout type de chantiers. Pour le coup, nous, les gens qu'on a eus, on a mis une annonce sur notre site internet, c'est passé sur Google, il y a des gens qui sont arrivés comme ça, qui nous ont appelés.
Par les pages jaunes, non mais...
On n'était pas énormément, on était une dizaine, mais il y avait des gens qui venaient de Nantes, des gens qui venaient de Montpellier, et puis c'est devenu des copains en fait. Parce que dans ce milieu-là, les gens sont super bienveillants, et puis techniquement, enfin, il y a eu beaucoup d'échanges, non, c'était vraiment super. Quoi.
C'est quoi la difficulté pour monter ce genre de maison? C'est la technicité, c'est de maîtriser le bois. D'ailleurs, c'est quoi concrètement la charpente? C'est construit sur quoi? Sur une remorque?
Alors, on a acheté une remorque qui est faite en acier, donc vendue par un professionnel, passée aux mines, donc
pour être transportable,
pour aller sur la route. Et ensuite, par-dessus, on a construit une maison en ossature bois. Donc c'est un concept qui existe aussi pour les maisons sur un sol statique, on va dire. Et donc cette ossature bois, à l'intérieur, il y a un isolant. Et à l'extérieur, on va mettre un bardage pour protéger. Et puis entre les deux, on met des membranes pour étanchéifier et contrôler les passages d'air. Et en fait, sur la question que tu disais, sur la difficulté, j'ai l'impression aujourd'hui, pas tant la difficulté technique sur la mise en œuvre, mais plus sur la conception. C'est pour ça d'ailleurs que sur la conception de l'ossature en bois, bon, on avait regardé sur Internet, il y a des plans qui se partagent et tout ça, mais comme on veut changer les choses à chaque fois pour adapter vraiment à notre projet, c'était un petit peu difficile et il y avait du risque. Donc la personne qu'on a rencontrée qui fait des maisons d'ossature bois nous a vendu un plan, enfin nous a vendu une conception et d'ailleurs est devenu quelqu'un qui nous aide assez régulièrement sur le choix des matériaux. Et puis à chaque fois, dans chaque étape, c'est ça, c'est la conception. Mmh. Électricité, plomberie et compagnie.
Et ce que Paul me disait souvent, parce que du coup, bah, moi je vous disais, j'ai fait la spécialité MPI à l'UTC, donc on nous apprend la gestion de projet, tout ça. Et puis j'arrêtais pas de dire à Paul, bon, allez, tu me fais un gant, etc. Et il me disait, mais Aurélie, c'est super difficile parce qu'en fait, certes, c'est une toute petite maison, mais il y a tous les sujets techniques d'une grande maison. Alors certes, c'est tout petit, enfin, je vais pas y passer 15 jours à chaque fois sur chaque étape, mais il faut techniquement être bon dans en fait un nombre de sujets très très différents.
C'est quoi le Gantt?
Le Gantt, c'est un énorme.
C'est un tableau. Oh,
j'ai pas envie de faire un cours de gestion de projet, mais c'est un document qui permet de suivre toute l'évolution du projet, des étapes et aussi, alors si on va vraiment le pousser à fond, des ressources humaines, enfin voilà, etc. Des financements, etc.
La grande difficulté, c'est dans ce document, il faut planifier et dire combien de temps va durer chaque tâche.
D'accord, faire un rétro-planning. Hein.
Et en fait, ce genre de choses, c'est très difficile à savoir quand tu l'as jamais fait et du coup, moi, mon approche est plus il faut faire les choses, c'est beaucoup plus empirique, peut-être des fois faire une ou deux erreurs, mais c'est tant que j'ai pas fait la chose que c'est pour moi difficile de concevoir combien de temps.
Ouais, c'est plus facile quand le projet est déjà mis en place et qu'on en a fait une.
C'est quand même super important rétrospectivement, d'autant plus que nous on aimerait bien partager nos informations. S'il y a d'autres autoconstructeurs qui veulent faire le même type de projet, c'est vraiment très important cette étape là. Et plus on peut aller loin, plus on a à disposition ce genre d'informations, plus on sera efficace sur le moment et on pourra. Et après, ça va jouer sur des détails, mais après, sur toute la réalisation, le côté parfait du truc, ben, on approchera quelque chose de vraiment plus qualitatif.
Et je réinsiste sur ce que tu dis, c'est qu'on souhaite vraiment mettre en open source nos données. Donc là aussi, je suis un petit peu l'élément pénible, mais je dis à Paul, non, mais note bien combien de temps ça t'a pris. Parce que, en fait, c'est lourd hein, au quotidien, mais au bout de 6 mois, on a oublié combien de temps on a pris pour poser tel truc. Alors que si on le note tout de suite, derrière, ça pourra servir à d'autres. Et le deuxième point, on en parlait en venant là, qui est en fait difficile, auquel on ne pense pas forcément, c'est la recherche de terrain. C'est-à-dire que pour construire une maison comme ça, il faut se dire que quand même, en partant du sol, elle fait 4,20 m, 4 mètres. Donc pour pouvoir construire, il faut que le hangar ou le lieu où on s'installe fasse au moins 5 mètres de haut. Et ce n'est pas si évident que ça à trouver. Nous, on n'avait pas spécialement un énorme budget pour louer un truc pour ça. Donc ça, c'est voilà, quand on veut se lancer, il faut vraiment trouver un lieu de construction où on peut bien stocker les matériaux. Et en ça, donc le partenariat avec l'Ermitage était vraiment chouette. Et après, le deuxième problème, c'est où est-ce qu'on peut la poser ? Parce que voilà, les personnes qui ont fait GSU savent que tout ce qui est plan de local d'urbanisme, etc., on ne rentre pas vraiment dans les cases types. Donc c'est toute la négociation...
Ça rentre dans le cadre des mobilhomes, dans les cadres des caravanes.
Ça rentre pas vraiment. Il y a plein d'exemples et plein de contre-exemples qui.
C'est un peu bon vouloir du maire, quoi.
Oui et non. Enfin, c'est en train de se préciser, mais en fonction de ce que tu laisses les roues ou pas, tu peux rentrer dans différentes cases. En fonction de ce que c'est, est-ce que à quel niveau de développement la ville est sur son PLU, PLUI, enfin.
C'est quoi le PLUI?
I intercommunal. Il y en a qui n'ont même pas de PLU. Ils ont d'autres types de documents. Donc.
Mais finalement, c'est quand même le maire qui peut rendre une décision sur l'autorisation de poser une caravane sur son terrain.
C'est ce qu'on en a compris.
Pour voilà. Eux aussi, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est comme les yourtes ou ce genre de choses que les
yourtes? Oui, je pense que ça se rapproche plus du principe yourte habitat léger. Et alors, la loi Allure qui a dernièrement été votée, un petit moment déjà, mais qui n'est pas encore à jour dans tous les documents d'urbanisme, essaye de faciliter un petit peu les choses. Mais on voit qu'en fait, c'est voilà, entre le règlement qui essaye de mettre un cadre, ce qui est tout à fait normal, et la réalité des choses d'un habitat léger, donc du coup, qui veut dire déplaçable, et entre un cadre très du coup
très rigide.
Et cette notion d'habitat mobile, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu complexe, mais on pense nous en tout cas, on veut vraiment être en toute transparence et que le dialogue peut aider à faciliter pour les prochains et à montrer qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre d'habitat, parce qu'au final, quand on en parle, là on ne peut pas montrer d'image, peut-être qu'on pourra vous envoyer des trucs, mais quand les gens ils la voient, ils font « mais en fait c'est une maison ». Enfin, oui, c'est une maison en bardage bois, c'est juste qu'elle est toute petite, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est caravane ou mobil-home camping.
Ouais, ça a plus la forme d'une maison qu'une caravane. Ouais. On va écouter un extrait musical, c'est sorti hier sur les réseaux sociaux, sur Internet. Nouvel album pour Lee Field, ça sortira au mois d'avril. Donc c'est tout neuf, ça s'appelle It's Rain Love, et on se retrouve juste après ça. It rains love when I'm with you. It rains love when I'm with you. You're my sun when clouds roll through. It rains love when I'm with you. I may not be the richest man, everything I can. I always try to do my best. When I fall short, I let love do the rest. I thought I didn't need nobody else, but there was something that I missed. I didn't know what it was until I kissed your lips.
look in your eyes, I see the love inside. My arms are open wide for you, no one but you, only you. Every time we're alone feels good to the bone. We have such a happy home because of you, thanks to you.
Nouvel album pour Lee Field sur les ondes de Graphite 94.9, c'est arrivé hier sur internet, il y a un super beau clip, allez-y. Et donc Lee Field and the Expression, le titre c'est It Rains Love, et bah voilà, c'est tout nouveau. Toujours en compagnie de Paul et Aurélie pour parler des tiny house, donc le mouvement des micro-maisons, des petites maisons de moins de 15 mètres carrés. Ils viennent de construire la leur. D'ailleurs, elle est terminée, ça y est, j'ai vu qu'elle avait bougé, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait pris son envol vers un autre terrain.
Alors, pas exactement terminée. La première phase est terminée, en fait. La construction de l'enveloppe de la maison, on dit à cette étape-là d'un chantier qu'elle est hors d'air, hors d'eau. Et là, on avait une étape très importante. Donc, il y a nécessité de la bouger, qui était de la peser. Puisque pour rouler, pour amener ça sur la route, il faut répondre à certaines contraintes réglementaires, notamment voilà, posséder un permis. Moi, j'ai le permis BE qui me permet de tracter 3,5 tonnes. En plus,
c'est les grandes caravanes, normalement, c'est ça ?
Grandes caravanes ou grosses remorques. Ben, quand j'ai passé le permis, c'était des gens pour tracter des chevaux ou pour du paysagisme. Des gens
qui ont des grosses remorques. Je ne savais pas qu'il fallait des tracteurs. Je tire la jument avec pas de permis. Je ne savais pas qu'il fallait un permis pour.
Alors,
ça dépend combien elle pèse.
On pourra revérifier, mais ça dépend combien elle pèse. Il y a même avant le permis B seulement, il y a le permis B96, un truc comme ça, donc fais gaffe quoi.
Ah ok, bon, je vais la peser en rentrant. Là sur la construction, combien ça vous a coûté, votre maison va vous coûter au final ? Est-ce que vous avez eu des coûts cachés aussi ?
En fait, quand on fait le budget, il faut regarder plusieurs aspects, c'est qu'il y a un aspect d'investissement matériel. Là-dessus, Paul a investi dans du matériel professionnel, visseuse perceuse, scie circulaire, on s'est dit c'est de l'investissement matériel, on va pas le compter dans le budget de la maison, mais ça a quand même un coût, faut prendre en compte quand on veut se lancer dans ce projet, si on n'est pas équipé ou si on peut pas nous en prêter, et il faut du matériel de qualité parce que ça, on vit son perce, on peut pas faire ça avec la perceuse avec laquelle on a monté le meuble IKEA, ça va pas le faire. Donc ça c'est un des aspects. Après, il y a tout l'aspect dont je parlais tout à l'heure de location ou pas. Donc nous, on a loué en fait une grande tente atelier pour être protégé des intempéries. Mais c'est un coût relativement léger par rapport à des gens qui loueraient un hangar ou d'autres choses. Et après, il y a tous les matériaux de construction. Nous, on fait une tiny house relativement grande quand même, parce qu'elle fait 7 mètres extérieur sans la flèche, qui est donc le triangle là, qui permet de la tracter, mais à l'intérieur 6,50 mètres en longueur. Du coup, on arrive vraiment dans les limites de poids, d'où l'importance de la peser, et du coup, ça veut dire plus de matériaux. Donc ça veut dire dans les prix aussi pas les plus élevés mais relativement chers, d'autant qu'on a cherché à faire à utiliser des matériaux écologiques. Donc vraiment la gamme de prix peut varier du simple au double, et encore doubler si, parce que nous on l'a fait nous-mêmes, mais si on souhaite l'acheter par un professionnel, ça double encore le prix.
Là le matériau écologique c'est quoi? C'est que le bois soit traité d'une certaine façon, géré?
Il y avait plusieurs choses, il y avait le bois pas traité chimiquement. Alors pour le coup, alors le bois, le bardage à l'extérieur, il est autoclavé, donc c'est un traitement physique, enfin à la chaleur. Et après tout le bois qui constitue l'ossature de la maison, c'est du Douglas, c'est un sapin si je dis pas de bêtises, et qui en fait est naturellement résistant grâce à sa résine en fait, qui empêche toutes les bactéries, les champignons de pousser. Ça plus l'isolant aussi, qui est un matériau biosourcé, donc c'est un mélange de coton, de lin et de chanvre. Et voilà, tout, et même le bois d'ailleurs, je reviens, c'est du bois qui est assez local, hein, c'est du bois du nord de la France, donc il y avait cette dimension-là.
Le Douglas, il y en a partout. Hein.
Ouais, et après, c'est pas parfait. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire peut-être mieux sur certaines choses, mais il y a toujours.
Il y a du mastic.
Des critères de prix, hein, et des critères techniques, des critères de poids, par exemple. On n'a pas mis que du bardage bois autour de notre maison, ce qui peut être conventionnellement fait. On a rajouté à la place de certains endroits du bardage en tôle d'aluminium, qui est trois fois plus léger que le bois le plus léger qu'on avait déjà sélectionné. Donc là, voilà, l'aluminium, c'est pas très durable quand il faut aller chercher parce que c'est une énergie fossile. Par contre, quand on va le mettre sur notre maison, ça va durer très longtemps, on va pas avoir besoin de le changer. Quoi.
Donc pour en revenir au prix, pour répondre à la question, donc prix, coût matière qu'on a mis sur la tiny, on va s'en sortir autour de 30 000 euros.
Ouais.
Sachant qu'en plus, nous, on a le souhait d'aller vers l'autonomie énergétique. Donc, on est quasiment terminé un dimensionnement photovoltaïque pour pouvoir produire l'électricité nécessaire à la vie dans cette petite maison. Et du coup, là, le budget est plutôt autour de 4 000 euros. Pour les équipements.
4 000 euros très bien équipés, hein, vraiment.
C'est voilà, des équipements autonomes, assez poussés. Ouais. D'ailleurs, si ça intéresse certains, on pourra animer un petit atelier photovoltaïque à l'occasion. Voilà. Et hors tous les autres trucs que j'ai dit avant, là, on est vraiment coût matière. Donc 34 000 euros si on compte le photovoltaïque.
Comment vous allez faire pour l'eau courante? Faut vous raccorder à quelque chose? Vous avez des réserves d'eau? Comment ça se déroule?
Bah alors, il y a plusieurs moyens différents. On pourrait se relier au réseau d'eau courante, puisqu'à l'intérieur, on va avoir un réseau propre pour amener de l'eau sur les différents points d'eau et une évacuation. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être autonome, d'avoir une réserve d'eau et de la remplir. On va essayer de mettre en place peut-être une méthode de récupération des eaux fluviales, mais bon, comme on a une toute petite maison, on a un tout petit pluvial, pardon, comme on a un tout petit toit, bon, on va pas avoir beaucoup d'eau et on ira essayer de trouver de l'eau à droite à gauche pour essayer d'être le plus autonome possible. C'est un travail aussi sur le mode de vie, hein.
Ça, c'est un travail qu'on va faire dans un deuxième temps. Il faut qu'on expérimente un peu, qu'on se rende compte de ce qu'on consomme aussi, parce que ça, c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à ce projet d'écolieu là dont on parlait au tout début de l'émission. On avait envie de faire un truc concret et là on va vraiment vivre ça, quoi. On va l'expérimenter, voir ce qui marche pas, etc. Sur l'eau, il y a la question de l'eau potable et puis de l'eau après pour se doucher et faire la vaisselle, c'est pas forcément les mêmes besoins, donc faut qu'on approfondisse ça un peu et ça dépendra du terrain sur lequel on s'installe aussi. Si le terrain est raccordé, c'est beaucoup plus simple que si le terrain n'a pas du tout de raccord.
Quelles sont les choses que vous avez mis de côté en vous disant bon bah ça on n'en aura plus besoin? Là, vous vivez dans quoi? Dans un studio? Dans combien de mètres carrés?
Aujourd'hui non, on a une
petite duplex,
une toute petite maison qui est sur deux niveaux, 2 x 20 mètres carrés, la chambre au-dessus, donc 40 mètres carrés. Et déjà il y a un peu plus de 6 mois, on avait déménagé dans un truc plus petit parce qu'on avait quelque chose d'un peu plus grand. On s'est séparé un petit peu de matériel. Qu'est-ce qu'on doit diminuer? Peut-être la quantité de chaussures, par exemple.
Pour Paul, je précise.
Et après, j'entends ça, c'est vraiment pour notre mode de vie, parce que je sais que quelqu'un peut vivre dans une tiny house avec beaucoup de chaussures, mais il faudra faire des compromis sur d'autres choses. Voilà, donc nous, c'est les chaussures, moi, un peu les chaussures, quelques vêtements, et puis après, c'est le matériel aussi pour la cuisine, il faut pas, enfin, ça sert à rien d'en avoir trop. Mais finalement... pas tant de choses que qui sont trop dures à lâcher pour nous. Enfin, moi, j'ai pas ce sentiment-là aujourd'hui.
C'est sûr qu'on va pas regarder tous nos cours, les livres de quand on était gamin.
La maison des parents, ça, j'imagine.
Oui, voilà. Bah, exactement. Voilà. Hein, on utilise un petit peu.
Moi, j'ai dû en donner aussi parce que j'ai plus la maison de mes parents, mais j'ai ma grand-mère. Donc, on a tous un petit peu ça. Il y a toujours un petit peu. On en retrouve toujours quand on fouille. Mais non, dans l'ensemble, ça va.
La cuisine, c'est comment? Vous allez faire au gaz? Vous allez faire...
On essaye de s'équiper le plus possible au gaz, du coup, pour diminuer, en gros, la quantité d'électricité qu'il faut gérer. Donc là, c'était pas très facile parce qu'on a... Enfin, on a cherché, en fait, du matériel, une bonne gazinière, mais qui était compacte. Et en fait, ça se fait pas dans le marché commun. Donc, on a trouvé du matériel fait pour, normalement, les caravanes, les camping-cars ou pour les bateaux. Et notre ami Le Bon Coin nous a permis d'avoir une gazinière à 300 euros au lieu du double, enfin neuve en fait, qui n'était pas utilisée par une personne qui avait récupéré ça, donc du bon matériel. Et le reste aussi, chauffage au gaz.
Chauffage au gaz, quoi.
Ouais. En fait, le gaz, quand on raisonne écolo, c'est ça, quand on dit on n'est pas parfait, c'est aussi ça la transition. C'est, le gaz, c'est pas écolo, c'est sûr. L'électricité, produire son électricité pour chauffer sa maison et un four, c'est juste pas possible, on serait pas capable.
Il faut trouver les bons compromis, quoi.
Voilà, ouais, c'est... Bon.
C'est comme chez soi, on peut commencer par des choses très simples. Quand on parle de trier ses déchets, c'est déjà un petit pas, récupérer l'eau, etc.
C'est ça. Faire du compost, c'est pas très compliqué non plus.
Vous avez commencé à c'est quoi les premiers gestes écologiques que vous avez fait chez vous?
La première fois qu'on a déménagé, c'était pour pouvoir avoir un petit extérieur, pour pouvoir avoir un mini potager et un compost. Ça, c'est vraiment la première chose.
C'est les tomates, la salade.
Exactement, voilà, on a commencé à planter un petit peu. Et puis après, on a pris des poules.
Ouais, depuis peu.
Les poules, ça rentre, c'est un super cycle à la maison, parce que du coup, il y a beaucoup de déchets qui partent aux poules. Puis ça donne des œufs de manière assez. Enfin, voilà, dans un cycle assez vertueux.
Et puis c'est beau. Elles sont belles.
C'est sympa, des poules. Ouais.
Il y a des gens qui ont peur des poules.
Hein. Oui, c'est possible. Après, on essaye de faire attention sur nos déchets.
On mange. En fait, on a aussi fait attention à comment on s'alimentait.
Ouais,
et ça, avant même. En fait, ça, c'est des choses qui. Je pourrais pas te dire à partir de quand. C'est juste. C'est des évolutions.
Parce que j'ai l'impression que la génération de trentenaires, c'est une génération où c'est plutôt naturel, en fait, d'avoir. C'est vraiment la limite où, ça y est, maintenant, ça rentre un peu dans l'usage de faire attention à ce qu'on consomme, surtout sur la nourriture de plus en plus. Mais j'ai vraiment l'impression que quand t'es né dans les années 85, 80,
c'est 90. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la quête de sens aussi. Hein. On se demande un petit peu pourquoi on fait ça, quel est l'impact sur notre environnement, en fait.
On a rentré là récemment à la radio un extrait de film que Léo a rentré. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter, c'est très drôle.
Si nous découvrions que la Terre était menacée par un changement de climat, par exemple, à votre avis, qu'est-ce que nous ferions ?
Rien. On discuterait sans fin, comme d'habitude.
Voilà, donc ça, c'est des morceaux, parce qu'on a des extraits de films, parfois, dans la radio. Je viens de découvrir cet extrait de film aujourd'hui, en préparant l'émission, donc qui est assez vrai, en fait.
C'était assez à propos.
C'est plutôt vrai, puisque souvent, les COP21, c'est souvent ça, des grandes discussions.
Et c'est pour ça aussi que, ce que je disais en début d'émission, nous, on ne voulait pas rester dans cette grande discussion de « on a plein d'idées, on va sauver le monde ». Enfin, non, déjà, clairement, on ne va pas sauver le monde à deux. Mais voilà, chacun à son échelle, on peut faire quelque chose, et nous, il faut qu'on commence à faire un petit truc. Et puis, ça inspirera d'autres, et puis nous, on a été inspirés par d'autres, et puis...
Fait vos études d'ingénieur, pourtant, je pense que quand on est ingénieur, on n'apprend pas forcément cette dimension-là. L'écologie, ça devient de plus en plus un peu la priorité dans les universités. Alors, l'UTC, on le voit, il y a certaines filières qui sont ouvertes. Ouais. UTEC qui est un peu plus tournée vers l'humain et la technologie.
Alors, UTEC n'était pas ouvert quand moi j'ai commencé, et puis c'est pas dans le cadre du doctorat non plus. On a la grande chance à l'UTC d'avoir un catalogue de technologies et sciences de l'homme, de cours de culture générale un petit peu élargie, très 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 grand et avec beaucoup de choses. Alors après, c'est une histoire de choix, hein. Certains ne vont pas du tout aller vers ces enseignements-là, mais moi j'en ai suivi aussi à l'UTC. Et on a une vie associative aussi qui est très chouette et qui permet de sensibiliser pas mal d'étudiants à ces sujets-là. Après, l'université ne fait pas tout, c'est aussi la conscience personnelle.
Une histoire d'éducation aussi. Hein,
l'éducation, les films, les documentaires. Oui. Moi, j'ai plongé dedans avec les documentaires.
Non, mais souvent, quand on imagine l'école d'ingénieur, c'est plutôt la course au profit, être le premier numéro un, passer par-dessus, être dans l'élite, on va dire, de la nation, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, les étudiants se tournent justement vers les choses alternatives, les productions. Alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vie politique, c'est de la politique, en fait, final, à l'UTC.
J'ai envie de dire que beaucoup de profils UTC1 le font parce qu'en fait, je donne mon avis, je ne résume pas l'avis de tous les ingénieurs de France, mais la chance qu'on a, c'est de pouvoir choisir nos cours à l'UTC. Alors, il y a des règles, hein, on ne prend pas que de l'anglais, après on a un diplôme d'ingénieur, hein, mais le fait de choisir ces cours, ça force à se questionner sur qu'est-ce que je veux faire plus tard, et du coup, à réfléchir un petit peu à tout ça, et donc on trouve beaucoup de gens de l'UTC, soit qui partent en cours de cursus et qui se réorientent, mais même après, qui travaillent un ou deux ans, et puis après se disent, j'ai pas envie de faire fonctionner la machine capitaliste extrême, enfin poussée à l'extrême, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, je trouve que dans les milieux ingénieurs, pas tant que ça. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'ingénieurs qui sortent d'école et qui partent dans les grands groupes et qui ne se posent pas vraiment tant de questions que ça.
Aujourd'hui, il y a le greenwashing aussi. Aujourd'hui, les entreprises sont vachement poussées à faire de l'écologie. Ça devient aussi un business.
Et c'est du marketing. C'est pas vraiment... Il n'y a pas de fait très... Enfin, concrètement, derrière, on en voit partout. Le vert, la couleur verte est utilisée dans beaucoup de publicités, mais ce n'est pas pour ça que c'est forcément écolo.
On va écouter un extrait musical, c'est Coup de Lame avec le titre Love Song, on se retrouve juste après ça. Coup de lame à l'instant sur les ondes de Radio Graphite. Là, c'est un extrait d'une bande originale de film. En fait, je crois que Love Song, je crois que c'est le titre du film. C'est fait par Julie Rouet. Voilà, un film qui était très bien d'ailleurs. Et une bande originale qui est également excellente. On parle toujours des tiny house. Donc, comment entreprendre à vivre dans moins de 15 mètres carrés? C'est possible. C'était quoi votre rêve quand vous étiez petit, à tous les deux?
Ce qui peut se matérialiser dans la tiny house, c'était un peu construire sa petite maison, construire sa petite cabane. Enfin, je pense que beaucoup de garçons sont passés par là, hein. Désolé pour le côté sexiste du truc, mais en tout cas, voilà, il y avait construire son chez-soi, son cocon, quelque chose après fait de bois, donc une matière très, très noble, très agréable. Donc c'est un des éléments qui m'a fait basculer dans m'investir à 100% en ce moment sur ça, personnellement.
Moi, c'est marrant, avec une copine qui était un peu anglophone, on s'était amusé à dessiner des mini-maisons comme ça, mais c'était vraiment le truc de gamine, on n'y croyait pas. On en a reparlé il n'y a pas très très longtemps, et j'ai réalisé ça, mais j'avais complètement oublié. Mais sinon, moi, je m'étais plutôt dit, si jamais j'arrive pas, les études, ça marche pas, etc., je me vois bien... le côté accueil, genre tenir une auberge ou un truc, de me dire le côté convivial autour de la nourriture aussi, etc. Donc finalement, le projet d'écolieux, c'est un peu, ça réconcilie le côté aussi technique, des enjeux techniques du monde de demain, et aussi ce côté de l'accueil de l'autre et de la convivialité.
C'est bien les clichés, hein, les garçons qui font des cabanes et puis les filles qui reçoivent dans leur cuisine.
Bravo.
Moi, je parle d'accueil, je parle pas forcément de cuisine, parce que c'est Paul qui serait dedans, parce que à la maison, c'est lui qui cuisine beaucoup, je tiens à le dire.
Comment vous allez faire si vous vous engueulez pour passer d'une pièce à l'autre? Est-ce que vous êtes dit ça?
Ça a été une question.
C'est pas facile, hein, parce qu'effectivement, dans cette future maison, il y aura la petite chambre qui sera séparée à la mezzanine. Après, c'est les toilettes, l'endroit qui peut vraiment fermer. Donc, on essaie de travailler en fait avant, au quotidien, sur notre communication, sur le fait de travailler ensemble, enfin sur le fait de partager beaucoup de choses. Et il y aura des moments de frustration. Je pense que même avec la meilleure communication au monde dans un couple, il y a des moments qui sont pas forcément très faciles. Savoir prendre du recul, savoir que l'autre, des fois, il n'est pas bien, et il faut lui laisser ce temps tout seul.
Et au pire, il y aura la nature, vous pourrez faire des balades.
Ouais, non, mais il y a beaucoup d'espace en dehors aussi. Mmh. Enfin, moi, je pratique le sport, enfin, c'est un endroit où ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc tout, en fait, c'est juste qu'on se rend compte que tout ne se centralise pas au niveau de la maison. Enfin, par exemple, pour un autre point, il y avait un bureau. Est-ce qu'un bureau est nécessaire dans la maison? Ben, pas forcément. On peut avoir des espaces de coworking aujourd'hui ou ce genre de choses. Donc, ça, on peut sortir certaines choses de la maison, et notamment même l'aspect relationnel, quoi.
Il y en a de plus en plus. Hein. Même à Compiègne, il y a de plus en plus d'endroits où on peut louer à la journée ou à la semaine un petit endroit avec Internet. Tout ça. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir une télévision? Est-ce que vous allez avoir de la musique? Est-ce que...
Alors, niveau de télévision, on n'a jamais eu de télévision depuis qu'on vit ensemble. Je crois. Si on a eu une
t'avais,
au départ.
T'avais un écran, mais il n'était jamais branché.
Ouais,
en fait.
On a eu Netflix pendant un ou deux mois, et après, on l'a pu utiliser. Du coup, on l'a mis dans notre bureau associatif. Niveau musique, on adore la musique, et aujourd'hui, y a des petites enceintes Bluetooth qui sont vraiment de top qualité. Et c'est dans le dimensionnement de notre système photovoltaïque, il y a assez d'énergie pour pouvoir faire marcher cette petite enceinte, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on n'aura pas Internet. Enfin, on aura nos téléphones, mais on n'aura pas de box Internet. Maintenant.
Oui, on pourrait avoir une clé 4G, mais finalement, on s'est dit qu'on avait... Ouais. En fait, dans la vie professionnelle ou associative, il y a moyen d'avoir accès à Internet, et qu'au final, à la maison, quand on est vraiment à la maison, ça peut être bien de ne pas avoir Internet comme ça spontanément, de ne pas toujours être sur les écrans, quoi. Ça se trouve, on dit ça, et au bout de deux mois, on va acheter le TKG. Hein, mais c'est le projet, là, c'est de commencer sans...
Parce qu'il y a moyen, effectivement, d'avoir Internet avec des petites clés, en fait.
Ouais, maintenant, il y a de plus en plus. Ouais.
Qui capte la 4G, et en plus, ça amplifie le signal très facilement. Il y a moins de regarder du streaming en étant dans une mini-maison sans être relié au réseau téléphonique. Quoi.
Et les toilettes, c'est quoi? C'est des toilettes sèches?
Ouais. Toilettes sèches, ça diminue énormément les quantités d'eau, en fait. Bien sûr. On fera un petit compost à côté.
Compost spécial toilettes sèches, qui tourne sur 2 ans, alors qu'un compost classique peut tourner sur 1 an.
Souvent, le schéma classique, quand on commence à avoir 30 ans, tout le monde vous dit « Et les enfants ? Alors, et les enfants ?» Vous allez faire quoi, une tiny house, si vous allez faire des enfants ou...
Une deuxième tiny house ? Ouais. Pourquoi pas,
on
je sais pas.
On
est-ce
verra.
Que vous avez déjà programmé en vous disant « On va peut-être vivre 2 ans, 3 ans » Est-ce qu'il y a déjà une durée de vie, en fait, un peu de votre tiny house, ou pas du tout pour le moment ?
Non, parce que vraiment, on a envie d'expérimenter cette vie. Franchement, on ne sait pas vraiment si
vous
n'avez
pas
eu le
retour d'expérience de d'autres personnes qui vous ont dit nous on a vécu 2 ans dedans. Et...
Si, il y a pas mal de groupes Facebook, de bouquins, de témoignages, etc. Et on trouve des gens qui en ont eu marre, et puis des gens qui vendent leur tiny, et puis des gens qui sont une famille de 3 enfants grands, et ils vivent en tiny house avec une tiny house. Donc ils ont 2 chambres. Hein, mais nous on se dit que pour l'instant on n'a pas d'enfants. Voilà, déjà. Et que, donc, si on en a, y en a un qui arrive, ce ne sera pas tout de suite. Il faut le temps que... voilà. Et que, comme l'idée, c'est de monter un écolieu, un jour, peut-être, on arrivera sur de l'habitat, création d'habitat du coup plutôt écologiques, terre paille ou d'autres systèmes de construction, qui font que à ce moment-là, on pourra se poser la question familiale, comment on veut vivre vraiment à long terme. Pour l'instant, on ne sait pas où on s'installera. Il y a plein de trucs, plein d'inconnus. Donc, c'est déjà pas mal de savoir où tous les deux on va dormir tous les soirs. Et puis, avec un gamin jusqu'à 3 ans, sans souci, dans une tiny house, ça passe. Rentre, ouais.
Au pire, une petite tente dans le jardin.
Pas l'hiver, quand même.
Vous avez fait des calculs de savoir combien votre maison, en termes de CO2, combien elle recrache, ou ce genre de choses, parce que comme vous vouliez un peu tout documenter.
Non, effectivement. Enfin, pas exactement sur ça. Je pense qu'on le fera plus tard, parce que j'ai vu des gens le faire sur les collectifs Facebook. Non, on l'a pas fait. Non.
Ce qui est compliqué, c'est pas compliqué de faire ces calculs-là, mais c'est que d'être dans l'opérationnel tous les jours, de gérer le planning, gérer les matériaux, gérer, enfin voilà, plein de trucs.
T'as tête dans le guidon, quoi.
Plus, enfin donc bon, Paul est à plein de temps là-dessus, mais moi je bosse à côté, donc c'est vrai que quand le soir je rentre et qu'il me parle de photovoltaïque, des fois j'ai envie de lui dire, d'ailleurs souvent je lui dis, écoute, ce soir j'ai pas trop envie, mais au bout d'un moment il me dit, bon Aurélie, là faut vraiment qu'on avance, donc tu m'écoutes. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a des petites études où ce sera plus posé quand on aura fini le chantier.
Mais pour autant, c'est quand même des questions qui nous trottinent, enfin moi qui me trottine beaucoup.
Oui, clairement.
Et notamment, par exemple, l'histoire du photovoltaïque, c'est pas la solution miracle pour révolutionner et créer de l'énergie gratuitement. Hein. Ça a son empreinte carbone. Voilà. Par contre, on réfléchit à où poser notre maison. Si on peut trouver notre maison pas trop loin de Compiègne pour pouvoir prendre le vélo, ben on essaiera de continuer à faire un effort là-dedans. Quoi. Enfin...
Vous avez arrêté à manger de la viande ?
Moi personnellement non, mais on n'en achète jamais à la maison, j'en mange au resto, mais je vis avec quelqu'un qui mange plus du tout de viande.
Et moi ça fait un mois et demi, 2 mois que je suis 100% végétarienne.
Donc pas de lait, pas de fromage non plus.
Végétalien,
c'est pas de lait, pas de fromage,
voilà, je
et pas de sucre.
Rien.
Du coup, tu manges pas de viande.
Je mange pas de viande, je mange des œufs et du fromage. Et je bois pas trop de lait en fait, j'en ai pas besoin. C'est sûr que le côté fromage, j'ai encore un peu du mal. Après.
Non, parce qu'à ce qui paraît, si on est végétarien, on peut avoir une grosse voiture et que ça compense, en fait.
Ah non.
Donc,
non.
Pour nous rassurer, non, pas non. besoin. Non. Parce que pour le coup, il faut une très grosse voiture, normalement, pour pouvoir tracter une maison comme la nôtre. Mais nous, on va passer par de la location, donc il y a des solutions très simples.
À terme, si vous voulez arriver où, dans le sud de la France ?
On verra où ça nous mènera. On a des idées. Enfin, ça tout part en partie de moi parce que j'avais des envies. Moi, je viens du sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et voilà, passionné par la nature, donc la montagne, l'océan. Si on pouvait aller vers le Pays Basque, au pied des Pyrénées, c'est quelque chose qui nous plairait. Après, on verra sur les opportunités. Ce sera peut-être un autre endroit, franchement. On en reparle dans quelques années.
Moi, côté financement, je milite un peu plus pour l'entrée dans les terres. Mais c'est vrai que du coup, on s'éloigne. Enfin voilà, c'est encore une histoire de compromis et une histoire d'opportunités, de rencontres. Et il ne faut pas trop vouloir tout gérer. Les choses se passent naturellement.
Oui, ça va venir avec Vous avez déjà dormi dans des autres maisons un peu atypiques, dans des yourtes, dans des cabanes dans les arbres ou ce genre de choses? Vous avez déjà fait quelques...
Loger, non. On a des amis qui habitaient en yourte l'année dernière, donc qui ont toujours les yourtes, mais qui ont déménagé, donc ils les louent.
C'est pas à Tracy, non? Parce que du coup, il y a des yourtes qui sont à vendre à Tracy.
Oui, on les connaît.
C'est eux, hein.
Charline et Olivier. On leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent.
Je crois qu'il y a deux yourtes sur un terrain.
Deux yourtes connectées par un genre de couloir d'entrée. C'est super beau.
J'ai vu les photos sur Le Bon Coin. Elle était à vendre avec un très beau terrain, avec une maison en dur où ils ont fait leur buanderie. Et franchement, l'intérieur, c'est magnifique.
C'est beau. Et en fait, ils étaient dans un groupe de perma. C'est avec eux qu'on a. Enfin, ils étaient notamment un des couples qui a travaillé sur la dynamique perma avec nous. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là, on a visité un peu tous les lieux.
En pleine forêt, en fait, ça
Quasiment. À l'orée de la forêt, ouais. Ils ont un bout de forêt qui leur appartient sur le terrain.
Et justement, le bois sur le chauffage, vous n'avez pas pensé à mettre un poêle à bois? C'est pas
plus... Alors, si, il y a beaucoup de gens qui font ça en tiny house. Et aussi beaucoup qui sont contre. En fait, c'est un peu partagé. Parce que c'est vrai que les gens qui vont en tiny house, en général, aiment le bois, aiment l'odeur du bois, aiment ce côté très chaleureux du bois. Et du coup, qui est amené aussi avec le poêle à bois, c'est vraiment quelque chose autour duquel on centre. Par contre, le problème du poêle à bois, c'est qu'il chauffe très vite. Et dans une tiny house, malgré une bonne isolation, on a très peu d'inertie. Donc, on va difficilement garder la chaleur. Et là, je regarde en ce moment les gens sur le collectif tiny house qui disent, bon, comment vous faites le matin pour gérer entre 11 et 15 degrés? Voilà. Donc, nous, on a préféré partir sur un système sur lequel on peut être aussi autonome avec des bouteilles de gaz, enfin autonome dans le sens qu'on peut, on peut bouger comme on veut et avoir hein, quelque chose de thermoréglable, hein, vraiment pour avoir ce risque. Voilà. Parce qu'en plus, la chaleur monte et en général, toutes les chambres sont en haut. Donc le soir, il fait 25 degrés dans la chambre, c'est pas forcément super confortable. Et le matin, il en fait 10. Et... Alors après, en général, les petits poils le mettent très vite pour recharger la chaleur. Mais bon, on aimerait avoir une bonne homogénéité sur la température. Donc.
Là, l'argent, les 30 000 euros, vous avez emprunté à la banque ou vous avez de l'argent, c'est de l'argent que vous avez de côté ?
C'est de l'argent personnel. C'est un des critères. On voulait pas emprunter à la banque et on a avait des économies de
mutualisé nos économies et enfin moi personnellement en tout cas j'avais pas d'héritage particulier quoi, c'est avec les stages on met un peu de côté, enfin voilà, on a continué à avoir le même dépenses de rythme de vie qu'on avait quand on était étudiant en faisant assez.
Mais c'était plus pour savoir si les banques donnaient, enfin aidaient facilement.
Ah, là je sais pas du tout.
Parce que du coup on a des amis qui ont acheté, enfin des amis, des gens qui ont fait de la radio d'ailleurs, qui ont acheté une péniche. C'était très compliqué pour trouver une banque qui leur a donné de l'argent.
Ouais, moi j'avais lu des témoignages de gens qui, en fait, ils ont des crédits à la consommation. C'est pas considéré comme un crédit IMO quoi. Mais donc du coup on peut emprunter moins avec un crédit à la consommation, mais en même temps comme ça coûte. Oui, mais comme ça coûte moins cher. De base, t'as pas besoin d'emprunter 100 000 balles pour faire ça. Donc,
ouais, c'est près d'une voiture, 30 000 euros en journée. Et sur les assurances, comment ça se passe concrètement avec une assurance ?
Eh ben, ça n'a pas été très facile. Hein. Du coup, moi, c'est j'ai dû changer totalement d'assurance. Hein. Je ne ferai pas de la bonne pub pour mon ancienne assurance à qui j'ai appelé, j'ai demandé comment.
C'était quelle assurance du coup ? T'étais chez qui avant ?
Ah ben, c'était la Maif en fait.
La Maif.
On les a appelés, on leur a demandé de faire un devis. Donc déjà, la réponse était négative directement. On nous a proposé de créer un dossier, d'expliquer notre projet, puis on a une deuxième réponse négative sans aucune justification en fait. Donc c'était ça qui était un petit peu dommage.
C'est pareil, on rentre pas dans les cases.
Ils ont pas, en fait, je pense que les gens n'ont pas voulu faire d'efforts. Hein. Ça se trouve, j'étais tombé sur une autre personne.
Il aurait fallu un autre conseiller qui prenne le
projet. C'est possible.
Alors,
pour autant, ils me disaient, oui, les informations sont remontées à notre siège, naninana. Et finalement, merci les réseaux sociaux, parce que sur le collectif Tanios, en fait, il y a un assureur dans le sud de la France, donc qui dépend de AXA, qui a senti le filon, qui a dit, moi, je vais vous les assurer, les Tanios, il n'y a personne qui fait ça. Il a un peu communiqué sur Facebook, sur une... Je crois qu'il y a un constructeur aussi qui a relié son truc, et maintenant, tout le monde beaucoup de monde s'assure chez lui. Et du coup, on a assuré notre remorque, juste comme bien, quand elle est pour pouvoir conduire. Et notre maison, on a pu l'assurer aussi pour un coût qui n'est pas exorbitant.
Avec assurance responsabilité civile incluse. Quoi.
Ou est-ce que le risque, c'est l'accident en route, quoi ?
Alors, sur la route, notre maison, en fait, elle est considérée comme un chargement. Donc, on l'assure, en fait, sur le montant.
C'est une valeur déclarée.
Voilà, sur une valeur, exactement. Et après, il y a l'assurance sur un terrain. C'est une assurance type caravane ou mobilhome, je ne me rappelle plus exactement. Donc, une assurance lieu de vie à l'année, en fait, sur un petit terrain, sur un espace.
C'est marrant, la Maïf, parce qu'ils sont plutôt assureurs
militaires.
On a tous retenu ça. Voilà, et malgré...
Mais c'est vraiment cette histoire de... des trucs un peu alternatifs qui savent pas trop où
le
ranger
projet
quoi. Voilà.
Là vous allez habiter quand dans votre maison?
On espère au printemps. Donc comme je disais au début, il nous reste l'aménagement intérieur, c'est quand même assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de finitions et plein de tâches différentes plus ou moins techniques. Voilà, l'estimation que j'ai fait ce matin, c'était au début mi-avril, on va dire. Donc le printemps, l'été, dans la Tanios, dans la nature, ça sera vraiment un plaisir. Quoi.
Et avec un petit barbecue pour commencer. Vous allez faire avec les gens qui ont participé à...
Ouais.
Parce que là, c'est compliqué d'inviter des gens, du coup.
Bah non, parce qu'en fait, on va pas tous manger. Enfin, au mois de
mai,
il fait...
D'héberger des gens, dire venez dormir à la maison.
On peut héberger, si
quand
on peut héberger, on a de quoi un grand canapé lit, on peut héberger deux personnes. C'est vrai qu'à présent, on pouvait rajouter des gens sur le sol. Là, on pourra rajouter quelqu'un dans la cuisine. On peut être 5 ou 6, je pense.
En se serrant.
Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Est-ce que vous conseillez aux gens de se lancer dans l'aventure ? Est-ce qu'on peut retrouver des informations ? Du coup, il y a ta sœur qui est en train de faire un documentaire de 5 épisodes qui sera prêt.
Quand il sera prêt. Donc je crois que c'est pas très facile de créer
sera...
tout
parce
ça.
Parce qu'elle est aussi bénévole et elle fait ça sur son temps en plus. Donc,
et c'est
merci.
Très compliqué le montage en général.
C'est le montage,
en tout cas, on le diffusera avec plaisir sur Graphite. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur votre projet ?
Donc, nous, on a un blog. On est hébergé par l'association des Colibris. Donc en cherchant sur Internet Wiki Colibris et le nom de notre association qui est Pangkor, P-A-N-G-K-O-R, Vous pourrez retrouver notre site internet avec notre blog et puis des présentations du coup du projet de Tiny House, du projet associatif, du projet de l'écolieu. Enfin voilà, il y a tout ça.
Et par ce biais, enfin je rajoute, excuse-moi, si des gens sont intéressés pour visiter, pour voir à quoi ça peut ressembler, parce que ça peut faire peur au départ, mais ça peut donner envie. C'est tout à fait possible, donc par le site, vous pouvez nous contacter, et voire même venir bricoler avec nous. Ça, c'est surtout les samedis ou des investissements plus longs, si vous avez beaucoup de temps, sur des journées dans la semaine aussi.
Et après, on a fait une petite page Facebook où on relaie ce qu'on met sur le blog, en fait, si c'est plus simple pour...
Il y avait une tiny house qui avait disparu, vous savez si elle a été retrouvée ou...
Non, pas de nouvelles. Non,
je crois pas, et c'était assez stressant, parce que c'était pile, nous, on est en train de faire exactement la même chose, et c'était pas très loin d'ici, je crois que c'était sur la côte.
C'était près de Dieppe, et elle est passée, a priori, proche de Compiègne, donc...
C'est vous qui avez volé la tiny house des autres pour changer.
Non, c'est pas la même. Et non, ce qui est triste, c'est que ce monsieur venait de finir il était un peu juste avant nous. Il venait de finir toute sa maison.
Juste après, il avait fini un peu l'aménagement et tout. Et avant même d'y habiter, on lui a volé. Alors, il existe des systèmes de protection pour ça. Donc, ça a lancé tout un débat sur le collectif. Donc.
Ouais.
Voilà. Bloquer les roues.
Bloquer les roues,
voire même il y a des gens. Ouais, il y a des gens qui mettent des petits mouchards en fait.
Des détecteurs GPS.
Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous présenter votre tiny house, votre micro maison, et toutes les informations on les remettra sur la page Facebook de Graphite. Si vous avez pris l'émission en cours de route et que vous souhaitez la réécouter, elle sera disponible sur internet www.graphite.net. Et on vous rappelle maintenant qu'on est disponible sur vos smartphones, sur vos télévisions, sur Deezer, enfin un petit peu partout. Donc n'hésitez pas, et si vous ne nous retrouvez pas sur certains lieux, et n'hésitez pas à nous communiquer sur quoi vous ne nous entendez pas, et on essaiera de mettre Graphite sur ces supports. Merci à vous.
Merci beaucoup de l'accueil.
Bon après-midi, bon courage, et on se redonne rendez-vous demain matin.
Samedi 12 janvier, à Clermont-de-Loise, Pogo pour les exilés. Un concert de solidarité avec Kundaoula, Usé, Frustration, Magnetics et bien d'autres. Les fonds recueillis serviront à financer la création à Grande-Synthe d'une maison de répit pour les familles d'exilés. Pogo pour les exilés, samedi 12 janvier à partir de 19h, salle André Pommery à Clermont-de-Loise. Entrée 10, 15 ou 20 euros selon vos moyens. Une soirée organisée par le CAL Clermontois, Celebration Days Festival et le soutien de Born Bad Records. Retrouvez toutes les informations sur graphite.net. Consider the others.